Merci Edouard Dupénoat. RFI matin, 7h43 à Paris et à Nice, où nous serons dans une toute petite demi-heure. On va retrouver Anne Cantner et ses invités pour une édition spéciale en direct de la conférence de l'ONU sur l'océan. Restez bien avec nous. Avant, on va décrypter les enjeux de cette conférence pour l'Afrique avec notre invité Foga Agbetosou, responsable pour le Togo de l'ONG Sustainable Ocean Alliance. Rendez-vous dans 5 minutes. D'abord le sport. Bonjour Salih Diouf.
Bonjour Andréane.
On commence avec du foot. Le monde du ballon rond avait les yeux tournés vers Munich hier soir.
Le Portugal est devenu la première équipe à remporter l'UEFA Nations League à deux reprises après avoir battu l'Espagne de Lamine Yamal au tir au but 5-3 à l'issue d'un match nul, deux buts partout en finale. Côté espagnol, c'est Alvaro Morata qui a raté sa tentative. Écoutez l'attaquant de la Roja, totalement abattu à l'issue de la rencontre.
C'est triste, nous avons tous fait un excellent travail pour essayer d'apporter un autre titre à l'Espagne et je me sens mal pour tous mes coéquipiers parce que nous avons travaillé dur. Mais bon, cela fait partie du football et de la vie. C'est clair que je n'ai pas bien tiré et ça ne peut pas changer. La dernière fois, j'ai gagné l'Euro. Là, je dois accepter et rentrer à la maison, énervé. Je ne peux rien faire d'autre.
Alvaro Morata au micro d'Antoine Grenier pour RFI.
Football toujours, mais chez les jeunes cette fois.
Chez la catégorie U20 pour être plus précis, le tournoi Maurice Revello se joue actuellement à Toulon dans le sud de la France. Le Mali va jouer son troisième match de groupe face à l'Arabie Saoudite à 12h temps universel. Les Aigles Espoir comptent une défaite face au Panama et une victoire au tir au but contre la France. Mais ils sont quatrième et dernier au classement pour l'instant.
Du basket pour terminer ce journal des sports.
Et direction Pretoria en Afrique du Sud où la balle, la Basketball Africa League se déroule. Alors que Al Ahly Tripoli et Al Ittihad d'Alexandrie ont déjà obtenu leur ticket pour les demi, les quarts de finale se poursuivent avec notamment Monastir Petro de Luanda. Le club angolais tenant du trophée qui n'a pas démarré ses phases finales du meilleur pied avec une défaite dans son match inaugural ce week-end. Claire Bargelès.
Le club angolais a été battu 75-57 par l'équipe de l'armée patriotique rwandaise. Mais l'entraîneur du Petro de Luanda, Sergio Valdeomillos, n'est pas inquiet.
Pour le prochain match, il faudra que l'on joue davantage tous ensemble et surtout être plus agressif et rester concentré. Tous ces points, on va les améliorer pour la prochaine rencontre.
Le meneur de jeu ivoirien, Solo Diabaté, de retour au sein du club cette saison après un passage à l'Al Ahly de Benghazi, espère aider le Petro à réaliser l'exploit de remporter la compétition deux années successives.
Les équipes sont très très fortes cette année. Je pense que j'ai jamais vu autant d'équipes aussi fortes de la balle. Ça va nous remettre la tête à l'endroit pour les quarts de finale. Joindre l'équipe qui a été membre du titre, c'est vrai que ça met un peu plus de pression parce que l'objectif pour eux, c'est de gagner encore une fois. Et pour moi, c'est de les aider à gagner, sachant que j'ai perdu en finale contre eux l'année dernière.
Et à 37 ans, même si Solo Diabaté peut faire figure de tonton et amène sa connaissance du jeu, il sait que personne ne doit se relâcher à ce niveau de la compétition.
Le tonton, il faut le prouver maintenant sur le terrain. Je pense qu'à un moment donné, ça, c'est en dehors du terrain. Et sur le terrain, il faut que je sois comme les autres. Beaucoup d'énergie et voilà, apporter mon expérience ici.
Le Petro Luanda n'aura pas le droit à l'erreur ce lundi face à l'US Monastir s'il souhaite se hisser en demi-finale. Claire Bargelès de retour de Pretoria, RFI.
Coup d'envoi de la rencontre, 17h, temps universel.
Salut Diouf pour ce journal des sports, merci. Vous revenez tout à l'heure à 7h42, temps universel. RFI Matin, votre chronique matière première. Aujourd'hui, on parle du manganèse gabonais, alors que le gouvernement a décidé que le minerai, avant d'être exporté, devra subir au moins une première transformation dans son pays d'origine. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Le Gabon, qui, on la rappelle, est le deuxième producteur mondial de manganèse, un minerai extrait essentiellement par le français Eramet, qui en transforme une petite partie sur place.
Oui, Eramet dispose d'unités de transformation aux États-Unis, en Norvège, en France, mais aussi au Gabon. Cette transformation est chapeautée par sa filiale Comilog, qui dispose de deux usines capables de traiter environ 20% du minerai. C'est ce qu'annonce le groupe. Le reste est exporté brut. Mais ces unités industrielles ne tournent pas au maximum de leur capacité. L'année dernière, le Gabon n'a exporté que 18 000 tonnes de silico-manganèse, selon le cabinet Argus Media, c'est-à-dire moins d'un tiers de ce que peut théoriquement transformer sur place le minier français.
Mais alors, est-ce réaliste piste pour un groupe comme Eramet de transformer tout le minerai qu'il extrait au Gabon dans les délais nécessaires.
Alors Eramet ne s'est pas prononcé sur les défis que cela pose, mais a pris acte de la demande des autorités gabonaises. Un expert de la filière évoque cependant une décision à l'emporte-pièce, irréaliste, car elle nécessite un certain nombre de préalables qui ne sont pas réunis. La difficulté, comme toujours quand on parle de transformation, c'est d'avoir de l'énergie disponible à un coût qui ne compromet pas la rentabilité du projet. Or, le Gabon fait face depuis une année au moins à de nombreux délestages, faute de capacité énergétique suffisante. Les miniers tels qu'Eramet qui sont présents au Gabon auront-ils par ailleurs les reins assez solides pour débloquer les investissements nécessaires à cette industrialisation de la filière? Certains analystes s'en doutent.
Pour l'instant, Marie-Pierre, l'annonce n'a pas fait bouger les prix du manganèse.
Effectivement, seul le cours de l'action d'Eramet a immédiatement réagi à la baisse. Le prix du manganèse, lui, n'a pas été ébranlé. 90% du minerai est utilisé pour fabriquer des aciers. Le cours est donc surtout suspendu aux éventuelles perturbations dans ce secteur-là, plus qu'à une annonce qui devrait être mise en œuvre en 2029. À long terme, en revanche, le marché pourrait être perturbé si le Gabon n'arrive pas à mettre en œuvre sa stratégie. Le pays produit environ 20% du manganèse mondial et toute tension dans la filière locale peut donc avoir des conséquences sur les prix.
Merci Marie-Pierre Rolfon, 7h49 à Nice. C'est là que démarre en ce moment même la troisième conférence de l'ONU pour l'océan. Dirigeants scientifiques ONG ont prévu de discuter, de débattre d'un plan pour mieux protéger les eaux du monde, les protéger notamment face à la pollution. On compte notamment que plus de 150 millions de tonnes de plastique se trouvent aujourd'hui dans les océans. Les abords du continent africain ne sont bien sûr pas épargnés, comme nous le dit ce matin notre grand invité, Foga Agbetosou, responsable pour le Togo de l'ONG Sustainable Ocean Alliance, comprenez, Alliance pour un océan durable. Il est en ligne de Lomé avec Christophe Boisbouvier.
Foga Agbetosou, bonjour.
Bonjour.
L'un des sujets de cette conférence de Nice, ce sont les émissions de CO2 provoquées par le trafic maritime. Ce secteur est à l'origine de 3% des émissions mondiales de CO2, soit presque autant que l'avion et presque autant que l'ensemble du continent africain. Qu'attendez-vous d'une telle conférence au sujet du trafic maritime, justement?
Oui, quand vous parlez des 3%, on peut peut-être penser que c'est un chiffre infime, mais les 3% représentent en fait 1056 millions de tonnes de CO2 qui sont émis par le domaine maritime, les bateaux et tout le reste.
Est-ce qu'il faut que les bateaux arrêtent d'utiliser du fioul et à ce moment-là, par quoi faut-il le remplacer?
Bien entendu, il faudrait qu'on se tourne vers les nouvelles technologies et remplacer ces carburants par d'autres carburants alternatifs comme l'hydrogène. Les recherches sont en cours et à Lomé, même récemment, il y a un institut, un centre Wascal, qui est un centre de recherche sur les questions climatiques qui, avec d'autres partenaires, ont mis sur pied un institut de recherche sur l'hydrogène dont des avancées se font déjà sur le continent, principalement au Togo. Il y a également des biocarburants marins. Des recherches sont en cours pour voir si on pourrait utiliser les algues et les déchets marins pour fabriquer du carburant pour ces bateaux.
L'un des fléaux des mers aujourd'hui, c'est le plastique. Alors, vu d'Afrique, est-ce que la pollution plastique est une réalité ou pas?
Oui, puisque l'Afrique, pour information, a produit plus de 17 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Même moins de 10% de ces plastiques sont recyclés sur le continent. Et le reste finit, comme vous le savez, dans les rivières, les fleuves et dans les deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien.
Et le problème, c'est que ces plastiques ne sont pas biodégradables, c'est ça?
Oui, la majeure partie de ces plastiques n'est pas biodégradable. Une fois qu'ils entrent dans l'environnement marin, ils prennent des décennies, quelquefois même des centaines d'années, à se désintégrer par suite des processus physiques qui se déroulent dans la mer. Et donc, année après année, les plastiques augmentent en pleine mer et cela constitue un danger notoire aux organismes qui vivent dans la mer. Et lorsque ces plastiques arrivent à se désintégrer aussi, ils se désintègrent et deviennent des microplastiques qui sont quelquefois confondus par certaines espèces marines, comme des aliments. Donc ces espèces les ingurgitent et tout cela finit sur nos tables lorsque nous consommons de ces espèces.
Donc il y a des poissons qu'il ne faut plus manger, c'est ça?
Je ne dirais pas qu'il ne faut plus manger, mais on ne sait pas quel poisson a ingurgité ces microplastiques et lequel n'en a pas pris. Donc nous nous attendons à ce que des avancées notoire soit faite sur la question de la pollution plastique, puisque c'est une question qui touche non seulement l'Afrique, mais aussi les autres continents. Et le problème également, c'est que les plastiques qui sont rejetés sur d'autres continents n'ont pas besoin de visa avant de venir sur nos côtes. Et donc, je crois qu'il faut vraiment développer une solution qui serait globale pour la question du plastique. Et je crois que la conférence du ANC, la prochaine session se tiendra en Genève, en Suisse, et je crois qu'ils vont développer un traité mondial sur le plastique, un traité mondial que les États vont ratifier pour que tous ensemble nous puissions trouver une solution globale pour ce problème global.
Oui, mais vous savez bien que cet accord international que tout le monde appelle de ses voeux, les pays producteurs de pétrole n'en veulent pas puisque le plastique est fait à partir du pétrole.
Oui, oui, mais ce n'est pas parce que certains États ont refusé de ratifier le traité que nous allons nous empêcher de faire ce qui est bien. Il faut quand même aller dans la bonne direction et un de ces jours, nous sommes positifs. Nous croyons que ces États vont céder.
Donc votre message, c'est que la mer, ce n'est pas une poubelle.
Oui, bien entendu, la mer n'est pas une poubelle, tout comme nos maisons respectives ne sont pas des poubelles. La mer, les fleuves, les rivières, ce sont des écosystèmes, des habitats d'autres organismes. Donc, il faut que nous travaillions à ne pas en faire des poubelles. Donc, pendant que nous exploitons les ressources de l'océan, il faut penser à les exploiter de façon durable, parce que l'océan entretient la vie sur la Terre. L'océan produit près de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et l'océan a encore beaucoup d'éléments à nous offrir. Donc, j'exhorte les États à prendre des décisions qui iront à l'avantage de l'océan.
Foga Agbetosu, je vous remercie.
Le responsable pour le Togo de l'ONG Alliance pour un océan durable, il répondait à Christophe Boisbouvier. C'est à retrouver sur notre site internet comme toutes nos autres productions dédiées à ce sommet. À la une en ce moment, cette analyse. À quoi doit servir la conférence de l'ONU sur l'océan? Rendez-vous sur le www.rfi.fr. Un sujet au cœur aussi de nos grands reportages cette semaine, des océans en péril à cause de l'activité humaine jusqu'au moment où les ressources viennent à manquer pour les populations des littoraux. C'est le cas en Afrique de l'Ouest où les communautés de pêcheurs ont été très fragilisées ces dernières années. Plusieurs reporters de RFI sont donc allés à leur rencontre dans quatre pays de la région. Communautés de pêcheurs ouest-africaines menacent sur la ressource. C'est un grand reportage collectif réalisé par Lisa Fabian, Léa Lisa Vesteroff, Juliette Dubois, Penaï Traoré, Tanguy Billan, Victor Cariou et présenté par Laurent Corot. Tout de suite un extrait.
Caillard, aux eaux réputées poissonneuses. Caillard à une soixantaine de kilomètres de Dakar, se nourrit de plus en plus difficilement de l'océan. Les sécheuses de poissons se plaignent d'attendre de plus en plus longtemps l'arrivée de la matière première. Comme Roudia Touré, installée sous un parasol, elle vit au quotidien cette raréfaction de la ressource.
Comme vous le voyez, nous sommes assises ici à discuter. Cela veut dire qu'il n'y a pas de poissons. Il arrive parfois que nous passions des journées entières sans aucune activité parce qu'il n'y a pas de poissons. Quand les pêcheurs partent en mer, ils restent plusieurs jours d'affilée car il n'y a plus rien.
Les conséquences se font également sentir au Ghana, à Tema, le plus gros marché de pêche artisanale du pays. Cette femme, vendeuse depuis 28 ans, regrette les bacs de poissons qu'elle vendait par le passé.
Quand j'ai commencé à travailler, les revenus étaient bons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne reçoit plus beaucoup de poissons. Maintenant, vu que les pêcheurs n'en ramènent plus, nous n'avons plus grand-chose à vendre. Nous n'avons plus d'argent. Nous sommes fatigués.
Même chose en Sierra Leone. Tombo, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Freetown, était autrefois un port de pêche prospère. La ville est aujourd'hui en déclin. Les pêcheurs y sont de plus en plus nombreux, les poissons de plus en plus rares et les conditions de travail de plus en plus difficiles. Tchernorba est le capitaine du port de Tombo.
Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui. Mais surtout, il n'y a plus de poissons et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10h ou 11h qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson.
Toute la région est concernée par l'épuisement de la ressource. Boulbinet est l'un des principaux ports de pêche artisanale de Conakry, la capitale guinéenne. Les prises sont versées à même le sol, sur des bâches tendues sur la digue. Les pêcheurs guinéens doivent eux aussi aller de plus en plus loin, prendre de plus en plus de risques pour trouver le poisson. Abdoulaye Camara est membre de l'Union des pêcheurs artisanaux.
Vous savez que la pêche là, ça représente un danger parce que la mer a sa façon de faire. Cette méthode d'aller pêcher loin là, c'est pas parce qu'ils veulent aller loin, mais le poisson est un peu éloigné maintenant.
Ce grand reportage à écouter intégralement sur RFI à 19h40, temps universel à retrouver aussi en podcast sur notre application RFI Pure Radio, bientôt 8h à Paris et à Nice où on retrouve tout de suite Anne Cantner en direct de la ville du sud de la France où se tient cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Bonjour à Anne, bonjour à toute l'équipe, on est content de vous entendre ce matin.
Mais on est content d'être à Nice pour pouvoir vous parler des océans, de ce qu'ils sont, des menaces aussi qui pèse sur ces océans, sur les mers. On en parle juste après le journal de 8h. Merci Andréane, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour, c'est Juan Gomez. À partir d'aujourd'hui, les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, sont interdits d'entrer aux États-Unis. Donald Trump justifie cette décision par un impératif sécuritaire. Quelle doit être la réaction des pays concernés ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Du 13 au 22 juin, la Maison des Cultures du Monde célèbre le Festival de l'Imaginaire pour une dernière édition. Au programme, chants rituels de Syrie, flamenco d'Andalousie, maître des musiques et des danses coréennes ou théâtre d'ombre du Brésil. Rendez-vous au Théâtre de l'Alliance Française et dans les lieux partenaires pour cette dernière édition du mémorable Festival de l'Imaginaire avec des artistes venus du monde entier. Plus d'informations sur festivaldelimaginaire.com en partenariat avec France Média Monde.